L'enfant maudit, 4. Où trouvera-t-on une plus jolie duchesse ? Se dit Beau Vouloir en se complaisant à voir Gabrielle, qui, légèrement penchée, tendant le cou pour suivre au dehors le vol d'un oiseau, ne pouvait se comparer qu'à une gazelle arrêtée pour écouter le murmure de l'eau où elle va se désaltérer. « Viens t'asseoir là, » dit Beau Vouloir en se frappant la cuisse et faisant à Gabrielle un signe qui annonçait une confidence. Gabrielle comprit et vint. Elle se posa sur son père avec la légèreté de la gazelle et passa son bras autour du cou de Beau Vouloir dont le collet fut brusquement chiffonné. « À qui pensais-tu donc en cueillant ces fleurs ? Jamais tu ne les as si galamment disposées. » « À bien des choses, » dit-elle. « En admirant ces fleurs, qui semblent faites pour nous, je me demandais pour qui nous sommes faites, nous. Quels sont les êtres qui nous regardent ? Vous êtes, mon père, je puis vous dire ce qui se passe en moi. Vous êtes habile, vous expliquerez tout. Je sens en moi comme une force qui veut s'exercer. Je lutte contre quelque chose. Quand le ciel est gris, je suis à demi contente. Je suis triste, mais calme. Quand il fait beau, que les fleurs sentent bon, que je suis là-bas, sur mon banc, sous les chèvrefeuilles et les jasmins, il s'élève en moi comme des vagues qui se brisent contre mon immobilité. Il me vient dans l'esprit des idées qui me heurtent et s'enfuient comme les oiseaux le soir à nos croisées. Je ne peux pas les retenir. Eh bien, quand j'ai fait un bouquet où les couleurs sont nuancées comme sur une tapisserie, où le rouge mord le blanc, où le vert et le brun se croisent, quand tout y abonde, que l'air s'y joue, que les fleurs se heurtent, qu'il y a une mêlée de parfums et de calices entrechoqués, je suis comme heureuse en reconnaissant ce qui se passe en moi-même. Quand, à l'église, l'orgue joue et que le clergé répond qu'il y a deux chants distincts qui se parlent, les voix humaines et la musique, eh bien, je suis contente. Cette harmonie me retentit dans la poitrine. Je prie avec un plaisir qui m'anime le sang. » En écoutant sa fille, Beau Vouloir l'examinait avec l'œil de la sagacité. Son regard eût semblé stupide par la force même de ses pensées rayonnantes, de même que l'eau d'une cascade semble immobile. Il soulevait le voile de chair qui lui cachait le jeu secret par lequel l'âme réagit sur le corps. Il étudiait les symptômes divers que sa longue expérience avait surpris dans toutes les personnes confiées à ses soins, et il les comparait aux symptômes contenus dans ce corps frêle dont les os l'effrayaient par leur délicatesse, dont le teint de lait l'épouvantait par son peu de consistance. Et il tâchait de relier les enseignements de la science à l'avenir de cet angélique enfant. Et il avait le vertige en se trouvant ainsi comme s'il eût été sur un abîme. La voix trop vibrante, la poitrine trop mignonne de Gabrielle l'inquiétaient, et il s'interrogeait lui-même après l'avoir interrogée. « Tu souffres ici ! » s'écria-t-il enfin, poussé par une dernière pensée où se résuma sa méditation. Elle inclina mollement la tête. « À la grâce de Dieu !» dit le vieillard en jetant un soupir. « Je t'emmène au château d'Hérouville. Tu y pourras prendre, dans la mer, des bains qui te fortifieront. » « Cela est-il vrai, mon père ? Ne vous moquez pas de votre Gabrielle. J'ai tant désiré voir le château, les hommes d'armes, les capitaines et monseigneur. » « Oui, ma fille, ta nourrice et Jean t'accompagneront. » « Sera-ce bientôt ? Demain, » dit le vieillard qui se précipita dans le jardin pour cacher son agitation à sa mère et à sa fille. « Dieu m'est témoin, » s'écria-t-il, « qu'aucune pensée ambitieuse ne me fait agir. Ma fille a sauvé, le pauvre petit Étienne à rendre heureux. Voilà mes seuls motifs. » S'il s'interrogeait ainsi lui-même, c'est qu'il sentait, au fond de sa conscience, une inextinguible satisfaction de savoir que, par la réussite de son projet, Gabrielle serait un jour duchesse d'Hérouville. Il y a toujours un homme chez un père. Il se promena longtemps, rentra pour souper, et se complut pendant toute la soirée à regarder sa fille au sein de la douce et brune poésie à laquelle il l'avait habituée. Quand, avant le coucher, la grand-mère, la nourrice, le médecin et Gabriel s'agenouillèrent pour faire leur prière en commun, il leur dit « Supplions tous Dieu qu'il bénisse mon entreprise ». La grand-mère, qui connaissait le dessein de son fils, eut les yeux humectés par ce qui lui restait de larmes. La curieuse Gabrielle avait le visage rouge de bonheur. Le père tremblait tant il avait peur d'une catastrophe. « Après tout, lui dit sa mère, ne t'effraie pas, Antoine, le duc ne tuera pas sa petite fille. » « Non, répondit-il, mais il peut la contraindre à épouser quelque soudard de baron qui nous la meurtrirait. » Le lendemain, Gabriel, monté sur un âne, suivi de sa nourrice à pied, de son père à cheval sur sa mule, et accompagné du valet, qui conduisait deux chevaux chargés de bagages, se mit en route vers le château d'Hérouville, où la caravane n'arriva qu'à la tombée du jour. Afin de pouvoir tenir ce voyage secret, Beauvouloir s'était dirigé par les chemins détournés en partant de grand matin, et il avait fait emporter des provisions pour manger en route sans se montrer dans les hôtelleries. Beauvouloir entra donc, à la nuit, sans être remarqué par les gens du château, dans l'habitation que l'enfant maudit avait occupée si longtemps, et où l'attendait Bertrand, la seule personne qui l'eût mise dans sa confidence. Le vieil écuyer aida le médecin, la nourrice et le valet à décharger des chevaux, à transporter le bagage et à établir la fille de Beauvouloir dans la demeure d'Étienne. Quand Bertrand vit Gabriel, il resta tout ébahi. « Il me semble voir madame !» s'écria-t-il. « Elle est mince et fluette comme elle. Elle a ses couleurs pâles et ses cheveux blonds. Le vieux duc l'aimera. » « Dieu le veuille, dit Beauvouloir, mais reconnaîtra-t-il son sang à travers le mien ?»« Il ne peut guère le renier, dit Bertrand. Je suis allé souvent le quérir à la porte de la belle Romaine, qui demeurait rue Culture-Sainte-Catherine. Le cardinal de Lorraine la laissa forcément à Monseigneur, par honte d'avoir été maltraité en sortant de chez elle. Monseigneur, qui dans ce temps-là marchait sur les talons de ses 20 ans, doit bien se souvenir de cette embûche. Il était déjà bien hardi, je peux dire la chose aujourd'hui. Il menait les affronteurs. « Il ne pense plus guère à tout ceci, dit Beauvouloir. Il sait que ma femme est morte, mais à peine sait-il que j'ai une fille. Deux vieux reîtres comme nous mèneront la barque à bon port, dit Bertrand. Après tout, si le duc se fâche et s'en prend à nos carcasses, elles ont fait leur temps. » Avant de partir, le duc d'Hérouville avait défendu, sous les peines les plus graves, à tous les gens du château, d'aller sur la grève, où Étienne avait jusqu'alors passé sa vie, à moins que le duc de Nivron n'y ramenât quelqu'un avec lui. Cet ordre, suggéré par Beauvouloir, qui avait démontré la nécessité de laisser Étienne maître de garder ses habitudes, garantissait à Gabriel et à sa nourrice l'inviolabilité du territoire, d'où le médecin leur commanda de ne jamais sortir sans sa permission. Étienne était resté, pendant ces 2 jours, dans la chambre seigneuriale où le retenait le charme de ses douloureux souvenirs. Ce lit avait été celui de sa mère. À 2 pas, elle avait subi cette terrible scène de l'accouchement où Beauvouloir avait sauvé 2 existences. Elle avait confié ses pensées à cet ameublement, elle s'en était servie, ses yeux avaient souvent erré sur ses lambris. Combien de fois était-elle venue à cette croisée pour appeler, par un cri, par un signe, son pauvre enfant désavoué, maintenant maître souverain du château. Demeurée seule dans cette chambre, où la dernière fois il n'était venu qu'à la dérober, amenée par Beauvouloir pour donner un dernier baiser à sa mère mourante, il l'y faisait revivre, et il lui parlait, il l'écoutait. Il s'abreuvait à cette source qui ne tarit jamais, et d'où découlent tant de chants semblables au super Flumina Babylonis. Le lendemain de son retour, Beauvouloir vint voir son maître et le gronda doucement d'être resté dans sa chambre sans sortir, en lui faisant observer qu'il ne fallait pas substituer à sa vie en plein air la vie d'un prisonnier. « Ceci est bien vaste, » répondit Étienne. « Il y a l'âme de ma mère. » Le médecin obtint cependant, par la douce influence de l'affection, qu'Étienne se promènerait tous les jours, soit au bord de la mer, soit au dehors dans les campagnes qui lui étaient inconnues. Néanmoins, Étienne, toujours en proie à ses souvenirs, resta le lendemain jusqu'au soir à sa fenêtre, occupé à regarder la mer. Elle lui offrit des aspects si multipliés qu'il croyait ne l'avoir jamais vue si belle. Il entremêla ses contemplations de la lecture de Pétrarque, un de ses auteurs favoris, celui dont la poésie allait le plus à son cœur par la constance et l'unité de son amour. Étienne n'avait pas en lui l'étoffe de plusieurs passions. Il ne pouvait aimer que d'une seule façon, une seule fois. Si cet amour devait être profond, comme tout ce qui est un, il devait être calme dans ses expressions, suave et pur comme les sonnets du poète italien. Au coucher du soleil, l'enfant de la solitude se mit à chanter de cette voix merveilleuse qui s'était produite comme une espérance dans les oreilles les plus sourdes à la musique, celle de son père. Il exprima sa mélancolie en variant un même air qu'il dit plusieurs fois à la manière du rossignol. Cet air, attribué au feu roi Henri IV, n'était pas l'air de Gabriel, mais un air de beaucoup supérieur comme facture, comme mélodie, comme expression de tendresse, et que les admirateurs du vieux temps reconnaîtront aux paroles également composées par le grand roi. L'air fut sans doute pris au refrain qui avait bercé son enfance dans les montagnes du Béarn. « Viens, Aurore, je t'implore, je suis gaie quand je te vois, la bergère qui m'est chère et vermeille comme toi, de rosée à rosée, la rose a moins de fraîcheur, une hermine est moins fine, le lys a moins de blancheur. » Après s'être naïvement peint la pensée de son cœur par ses chants, Étienne contempla la mer en se disant « Voilà ma fiancée et mon seul amour à moi. » Puis il chanta cet autre passage de la chansonnette « Elle est blonde, sans seconde. » Et le répéta en exprimant la poésie solliciteuse qui surabonde chez un timide jeune homme, oseur quand il est solitaire. Il y avait des rêves dans ce chant onduleux, pris, repris, interrompu, recommencé, puis perdu dans une dernière modulation dont les teintes s'affaiblirent comme les vibrations d'une cloche. En ce moment, une voix qu'il fut tenté d'attribuer à quelque sirène sortie de la mer, une voix de femme, répéta l'air qu'il venait de chanter, mais avec toutes les hésitations que devait y mettre une personne à laquelle se révèle pour la première fois la musique. Il reconnut le bégaiement d'un cœur qui naissait à la poésie des accords. Étienne, à qui de longues études sur sa propre voix avaient appris le langage des sons, où l'âme rencontre autant de ressources que dans la parole pour exprimer ses pensées, pouvait seul deviner tout ce que ses essais accusaient de timide surprise. Avec quelle religieuse et subtile admiration n'avait-il pas été écouté? Le calme de l'air lui permettait de tout entendre, et il tressaillit au frémissement des plis flottants d'une robe. Il s'étonna, lui que les émotions produites par la terreur poussaient toujours à deux doigts de la mort, de sentir en lui-même la sensation balsamique autrefois causée par la venue de sa mère. « Allons, Gabriel, mon enfant, » dit Beauvouloir, « je t'ai défendu de rester après le coucher du soleil sur ces grèves. « Rentre, ma fille !»«
Gabriel ?» se dit Étienne. « Le joli nom !»
Beauvouloir apparut bientôt et réveilla son maître d'une de ses méditations qui ressemblait à des rêves. Il était nuit, la lune se levait. « Monseigneur, dit le médecin,
vous n'êtes pas encore sorti aujourd'hui. Ce n'est pas sage. »
« Et moi ?» répondit Étienne. « Puis-je aller sur la grève après le coucher du soleil ?»
Le sous-entendu de cette phrase qui accusait la douce malice d'un premier désir fit sourire le vieillard.
« Tu as une fille, beau vouloir ?»«
Oui, monseigneur, l'enfant de ma vieillesse, mon enfant chéri. Monseigneur le duc, votre illustre père, m'a si fort recommandé de veiller sur vos précieux jours que, ne pouvant plus l'aller voir à Fort-Calier où elle était, je l'en ai fait sortir, à mon grand regret, et afin de la soustraire à tous les regards, je l'ai mise dans la maison où logeait auparavant monseigneur. Elle est si délicate, je crains tout pour elle, même un sentiment trop vif. Aussi ne lui ai-je rien fait apprendre. Elle se serait tuée.
« Elle ne sait rien ?» dit Étienne, surpris.
« Elle a tous les talents d'une bonne ménagère, mais elle a vécu comme vit une plante. L'ignorance, monseigneur, est une chose aussi sainte que la science. La science et l'ignorance sont pour les créatures deux manières d'être. L'une et l'autre conservent l'âme comme dans un suaire. La science vous a fait vivre, l'ignorance sauvera ma fille. Les perles bien cachées échappent aux plongeurs et vivent heureuses. Je puis comparer ma Gabrielle à une perle. Son teint en a l'orient, son âme en a la douceur. Et jusqu'ici, mon domaine de Fort-Calier lui a servi d'écaille.
« Viens avec moi, » dit Étienne en s'enveloppant d'un manteau. « Je veux aller au bord de la mer. Le temps est doux. »
Beauvouloir et son maître cheminèrent en silence jusqu'à ce qu'une lumière partie d'entre les volets de la maison du pêcheur eût sillonné la mer par un ruisseau d'or.
« Je ne saurais exprimer !»
s'écria le timide héritier en s'adressant au médecin. « Les sensations que me cause la vue d'une lumière projetée sur la mer. J'ai si souvent contemplé la croisée de cette chambre jusqu'à ce que sa lumière s'éteignît. » ajouta-t-il en montrant la chambre de sa mère.
« Quelque délicate que soit Gabrielle, » répondit gaiement Beauvouloir, « elle peut venir et se promener avec vous. La nuit est chaude et l'air ne contient aucune vapeur. Je vais l'aller chercher. Mais soyez sage, monseigneur. »
Étienne était trop timide pour proposer à Beauvouloir de l'accompagner à la maison du pêcheur. D'ailleurs, il se trouvait dans l'état de torpeur où nous plonge l'affluence des idées et des sensations qu'engendre l'aurore de la passion. Plus libre en se trouvant seul, il s'écria, voyant la mer éclairée par la lune, « L'océan a donc passé dans mon âme !» L'aspect de la jolie statuette animée qui venait à lui et que la lune argentait en l'enveloppant de sa lumière redoubla les palpitations au cœur d'Étienne, mais sans le faire souffrir.
« Mon enfant, » dit Beauvouloir, « voici monseigneur. »
En ce moment, le pauvre Étienne souhaita la taille colossale de son père. Il aurait voulu se montrer fort et non chétif. Toutes les vanités de l'amour et de l'homme lui entrèrent à la fois dans le cœur, comme autant de flèches. Et il demeura dans un morne silence en mesurant pour la première fois l'étendue de ses imperfections. Embarrassé d'abord du salut de la jeune fille, il le lui rendit gauchement et resta près de Beauvouloir, avec lequel il causa tout en se promenant le long de la mer. Mais la contenance timide et respectueuse de Gabrielle l'enhardit. Il osa lui adresser la parole. La circonstance du chant était l'effet du hasard. Le médecin n'avait rien voulu préparer. Il pensait qu'entre deux êtres à qui la solitude avait laissé le cœur pur, l'amour se produirait dans toute sa simplicité. La répétition de l'air par Gabrielle fut donc un texte de conversation tout trouvé. Pendant cette promenade, Étienne sentit en lui-même cette légèreté corporelle que tous les hommes ont éprouvée au moment où le premier amour transporte le principe de leur vie dans une autre créature. Il offrit à Gabrielle de lui apprendre à chanter. Le pauvre enfant était si heureux de pouvoir se montrer aux yeux de cette jeune fille investie d'une supériorité quelconque qu'il tressaillit d'aise quand elle accepta. Dans ce moment, la lumière donna pleinement sur Gabrielle et permit à Étienne de reconnaître les points de vague ressemblance qu'elle avait avec la feu duchesse. Comme Jeanne de Saint-Savin, la fille de Beauvouloir était mince et délicate. Chez elle, comme chez la duchesse, la souffrance et la mélancolie produisaient une grâce mystérieuse. Elle avait la noblesse particulière aux âmes chez lesquelles les manières du monde n'ont rien altéré, en qui tout est beau parce que tout est naturel. Mais il se trouvait de plus en Gabrielle le sang de la belle romaine qui avait rejailli à deux générations et qui faisait à cet enfant un cœur de courtisane violente dans une âme pure. De là procédait une exaltation qui lui rougit le regard, qui lui sanctifia le front, qui lui fit exhaler comme une lueur et communiqua les pétillements d'une flamme à ses mouvements. Beauvouloir frissonna quand il remarqua ce phénomène qu'on pourrait aujourd'hui nommer la phosphorescence de la pensée, et que le médecin observait alors comme une promesse de mort. Étienne surprit la jeune fille à tendre le cou par un mouvement d'oiseau timide qui regarde autour de son nid. Cachée par son père, Gabrielle voulait voir Étienne à son aise, et son regard exprimait autant de curiosité que de plaisir, autant de bienveillance que de naïve hardiesse. Pour elle, Étienne n'était pas faible, mais délicat. Elle le trouvait si semblable à elle-même que rien ne l'effrayait dans ce suzerain. Le teint souffrant d'Étienne, ses belles mains, son sourire malade, ses cheveux partagés en deux bandeaux et répandus en boucles sur la dentelle de son collet rabattu, ce front noble sillonné de jeunes rides, ses oppositions de luxe et de misère, de pouvoir et de petitesse, lui plaisaient. Ne flattait-elle pas les désirs de protection maternelle qui sont en germe dans l'amour? Ne stimulait-elle pas déjà le besoin qui travaille toute femme de trouver des distinctions à celui qu'elle veut aimer? Chez tous les deux, des idées, des sensations nouvelles s'élevaient avec une force, avec une abondance qui leur élargissait l'âme. Ils restaient l'un et l'autre étonnés et silencieux, car l'expression des sentiments est d'autant moins démonstrative qu'ils sont plus profonds. Tout amour durable commence par de rêveuses méditations. Il convenait peut-être à ces deux êtres de se voir pour la première fois dans la lumière adoucie de la lune, afin de ne pas être éblouis tout à coup par les splendeurs de l'amour. Ils devaient se rencontrer au bord de la mer, qui leur offrait une image de l'immensité de leurs sentiments. Ils se quittèrent pleins l'un de l'autre, en craignant tous deux de ne s'être pas plu. De sa fenêtre, Étienne regarda la lumière de la maison où était Gabrielle. Pendant cette heure d'espoir mêlée de crainte, le jeune poète trouva des significations nouvelles au sonnet de Pétrarque. Il avait entrevu Laure, une fine et délicieuse figure, pure et dorée comme un rayon de soleil, intelligente comme l'ange, faible comme la femme. Ses 20 années d'études eurent un lien. Il comprit la mystique alliance de toutes les beautés. Il reconnut combien il y avait de la femme dans les poésies qu'il adorait. Il aimait enfin, depuis si longtemps, sans le savoir, que tout son passé se confondit dans les émotions de cette belle nuit. La ressemblance de Gabrielle avec sa mère lui parut un ordre divinement donné. Il ne trahissait pas sa douleur en aimant. L'amour lui continuait la maternité. Il contemplait, à la nuit, l'enfant couché dans cette chaumière avec les mêmes sentiments qu'éprouvait sa mère quand il y était. Cette autre similitude lui rattachait encore le présent au passé. Sur les nuages de ses souvenirs, la figure endolorie de Jeanne de Saint-Savin lui apparut. Il la revit avec son faible sourire, il entendit sa parole douce, elle inclina la tête et pleura. La lumière de la maison s'éteignit. Étienne chanta la jolie chansonnette d'Henri IV avec une expression nouvelle. De loin, les essais de Gabriel lui répondirent. La jeune fille faisait aussi son premier voyage dans les pays enchantés de l'extase amoureuse. Cette réponse remplit de joie le cœur d'Étienne. En coulant dans ses veines, le sang y répandit une force qu'il ne s'était jamais sentie. L'amour le rendait puissant. Les êtres faibles peuvent seuls connaître la volupté de cette création nouvelle au milieu de la vie. Les pauvres, les souffrants, les maltraités ont des joies ineffables. Peu de choses est l'univers pour eux. Étienne tenait par mille liens au peuple de la cité d'Olante. Sa grandeur récente ne lui causait que de la terreur. L'amour lui versait le baume créateur de la force. Il aimait l'amour. Le lendemain, Étienne se leva de bonne heure pour courir à son ancienne maison, où Gabrielle, animée de curiosité, pressée par une impatience qu'elle ne s'avouait pas, avait de bon matin bouclé ses cheveux et revêtu son charmant costume. Tous deux étaient pleins du désir de se revoir et craignaient mutuellement les effets de cette entrevue. Quant à lui, pensait qu'il avait choisi ses plus fines dentelles, son manteau le mieux orné, son haut de chausse de velours violet. Il avait pris enfin ce bel habillement que recommande à toutes les mémoires la pâle figure de Louis XIII, figure opprimée au sein de la grandeur, comme Étienne l'avait été jusqu'alors. Cet habillement n'était pas le seul point de ressemblance qui exista entre le maître et le sujet. Mille sensibilités se rencontraient chez Étienne, comme chez Louis XIII. La chasteté, la mélancolie, les souffrances vagues mais réelles, les timidités chevaleresques, la crainte de ne pouvoir exprimer le sentiment dans sa pureté, la peur d'être trop vite amené au bonheur que les âmes grandes aiment à différer, la pesanteur du pouvoir, cette pente à l'obéissance qui se trouve chez les caractères indifférents aux intérêts, mais plein d'amour pour ce qu'un beau génie religieux a nommé l'astral. Quoique très inexperte du monde, Gabrielle avait pensé que la fille d'un rebouteur, l'humble habitante de Fort-Calier, était jetée à une trop grande distance de Monseigneur Étienne, duc de Nivron, l'héritier de la maison d'Hérouville, pour qu'ils fussent égaux. Elle n'allait pas jusqu'à deviner l'anoblissement de l'amour. La naïve créature n'avait pas vu là sujet d'ambitionner une place à laquelle toute autre fille eût été jalouse de s'asseoir. Elle n'y avait vu que des obstacles. Aimant déjà sans savoir ce que c'était qu'aimer, elle se trouvait loin de son plaisir et voulait s'en rapprocher, comme un enfant souhaite la grappe dorée, objet de sa convoitise, trop haut située. Pour une fille émue à l'aspect d'une fleur et qui entrevoyait l'amour dans les chants de la liturgie, combien doux et forts n'avaient pas été les sentiments éprouvés la veille à l'aspect de cette faiblesse seigneuriale qui rassurait la sienne. Mais Étienne avait grandi pendant cette nuit. Elle s'en était fait une espérance, un pouvoir. Elle l'avait mis si haut qu'elle désespérait de parvenir jusqu'à lui. « Me permettrez-vous de venir quelquefois près de vous dans votre domaine ?» demanda le duc en baissant les yeux. En voyant Étienne si craintif, si humble, car lui aussi avait déifié la fille de Beauvouloir, Gabrielle fut embarrassée du sceptre qu'il lui remettait. Mais elle fut profondément émue et flattée de cette soumission. Les femmes seules savent combien le respect que leur porte un maître engendre de séduction. Néanmoins, elle eut peur de se tromper, et tout aussi curieuse que la première femme, elle voulut savoir. « Ne m'avez-vous pas promis hier de me montrer la musique ?» lui répondit-elle, tout en espérant que la musique serait un prétexte pour se trouver avec elle. Si la pauvre enfant avait su la vie d'Étienne, elle se serait bien gardée d'exprimer un doute. Pour lui, la parole était un retentissement de l'âme, et cette phrase lui causa la plus profonde douleur. il arrivait le cœur plein, en redoutant jusqu'à une obscurité dans sa lumière, et il rencontrait un doute. Sa joie s'éteignit, il se replongea dans son désert et n'y trouva plus les fleurs dont il l'avait embellie. Éclairé par la prescience des douleurs qui distinguent l'ange chargé de les adoucir et qui sans doute est la charité du ciel, Gabrielle devina la peine qu'elle venait de causer. Elle fut si vivement frappée de sa faute qu'elle souhaita la puissance de Dieu pour pouvoir dévoiler son cœur à Étienne, car elle avait ressenti la cruelle émotion que causait un reproche, un regard sévère. Elle lui montra naïvement les nuées qui s'étaient élevées en son âme et qui faisaient comme des langes d'or à l'aube de son amour. Une larme de Gabrielle changea la douleur d'Étienne en plaisir. Et il voulut alors s'accuser de tyrannie. Ce fut un bonheur qu'à leur début ils connussent ainsi le diapason de leur cœur. Ils évitèrent 1000 chocs qui les auraient meurtris. Tout à coup, Étienne, impatient de se retrancher derrière une occupation, conduisit Gabrielle à une table devant la petite croisée où il avait souffert et où désormais il allait admirer une fleur plus belle que toutes celles qu'il avait étudiées. Puis il ouvrit un livre sur lequel se penchèrent leurs têtes, dont les cheveux se mêlèrent. Ces deux êtres, si forts par le cœur, si maladifs de corps, mais embellis par les grâces de la souffrance, formaient un touchant tableau. Gabrielle ignorait la coquetterie. Un regard était accordé aussitôt que sollicité, et les doux rayons de leurs yeux ne cessaient de se confondre que par pudeur. Elle eut de la joie à dire à Étienne combien sa voix lui faisait plaisir à entendre. Elle oubliait la signification des paroles quand il lui expliquait la position des notes ou leur valeur. Elle l'écoutait, laissant la mélodie pour l'instrument, l'idée pour la forme. Ingénieuse flatterie, la première que rencontre l'amour vrai. Gabrielle trouvait Étienne beau. Elle voulut manier le velours du manteau, toucher la dentelle du collet. Quant à Étienne, il se transformait sous le regard créateur de ses yeux fins. Il lui infusait une sève fécondante qui étincelait dans ses yeux, reluisait à son front, qui le retrempait intérieurement. Et il ne souffrait point de ce jeu nouveau de ses facultés. Au contraire, elle se fortifiait. Le bonheur était comme le lait nourricier de sa nouvelle vie. Comme rien ne pouvait les distraire d'eux-mêmes, ils restèrent ensemble non seulement cette journée, mais toutes les autres, car ils s'appartinrent dès le premier jour, en se passant l'un à l'autre le sceptre et jouant avec eux-mêmes comme l'enfant joue avec la vie. Assis et heureux sur ce sable doré, chacun disait à l'autre son passé, douloureux chez celui-ci, mais plein de rêveries, rêveur chez celle-là, mais plein de souffrants plaisirs. « Je n'ai pas eu de mère, disait Gabrielle, mais mon père a été bon comme Dieu. « Je n'ai pas eu de père, répondait l'enfant maudit, mais ma mère a été tout un ciel. » Étienne racontait sa jeunesse, son amour pour sa mère, son goût pour les fleurs. Gabrielle se récriait à ce mot. Questionnée, elle rougissait, se défendait de répondre. Puis, quand une ombre passait sur ce front que la mort semblait effleurer de son aile, sur cette âme visible où les moindres émotions d'Étienne apparaissaient, elle répondait « C'est que moi aussi j'aimais les fleurs ». N'était-ce pas une déclaration, comme les vierges en savent faire, que de se croire liée jusque dans le passé par la communauté des goûts? L'amour cherche toujours à se vieillir, c'est la coquetterie des enfants. Étienne apporta des fleurs le lendemain, en ordonnant qu'on lui en cherchât de rares, comme sa mère en faisait jadis chercher pour lui. Sait-on la profondeur à laquelle arrivaient chez un être solitaire les racines d'un sentiment qui reprenait ainsi les traditions de la maternité, en prodiguant à une femme les soins caressants par lesquels sa mère avait charmé sa vie. Pour lui, quelle grandeur dans ces riens, où se confondaient ces deux seules affections. Les fleurs et la musique devinrent le langage de leur amour. Gabrielle répondit par des bouquets aux envois d'Étienne. De ces bouquets dont un seul avait fait deviner au vieux rebouteur que son ignorante fille en savait déjà trop. L'ignorance matérielle des deux amants formait comme un fond noir sur lequel les moindres traits de leur acquaintance, toute spirituelle, se détachaient avec une grâce exquise, comme les profils rouges et si purs des figures étrusques. Leurs moindres paroles apportaient des flots d'idées, car elles étaient le fruit de leur méditation. Incapables d'inventer la hardiesse, pour eux, tout commencement leur semblait une fin. Quoique toujours libres, ils étaient emprisonnés dans une naïveté qui eût été désespérante si l'un d'eux avait pu donner un sens à ses confus désirs. Ils étaient à la fois les poètes et la poésie. La musique, le plus sensuel des arts pour les âmes amoureuses, fut le truchement de leurs idées, et ils prenaient plaisir à répéter une même phrase en épanchant la passion de ces belles nappes de sons où leurs âmes vibraient sans obstacle. Beaucoup d'amour procède par opposition. C'est des querelles et des raccommodements. Le vulgaire combat de l'esprit et de la matière. Mais le premier coup d'aile du véritable amour le met déjà bien loin de ses luttes. Il ne distingue plus deux natures là où tout est même essence. Semblable au génie dans sa plus haute expression, il sait se tenir dans la lumière la plus vive. Il la soutient, il y grandit et n'a pas besoin d'ombre pour obtenir son relief. Gabrielle, parce qu'elle était femme, Étienne, parce qu'il avait beaucoup souffert et beaucoup médité, parcoururent promptement l'espace dont s'emparent les passions vulgaires et allèrent bientôt au-delà. Comme toutes les natures faibles, ils furent plus rapidement pénétrés par la foi, par cette pourpre céleste qui double la force en doublant l'âme. Pour eux, le soleil fut toujours à son midi. Bientôt, ils eurent cette divine croyance en eux-mêmes qui ne souffre ni jalousie ni torture. Ils eurent l'abnégation toujours prête, l'admiration constante. Dans ces conditions, l'amour était sans douleur. Égaux par leur faiblesse, forts par leur union, si le noble avait quelque supériorité de science ou quelque grandeur de convention, la fille du médecin les effaçait par sa beauté, par la hauteur du sentiment, par la finesse qu'elle imprimait aux jouissances. Ainsi, tout à coup, ces deux blanches colombes volent d'une aile semblable sous un ciel pur. Étienne aime, il est aimé, le présent est serein, l'avenir est sans nuage, il est souverain, le château est à lui, la mer est à tous deux. Nulle inquiétude ne trouble l'harmonieux concert de leur double cantique. La virginité des sens et de l'esprit leur a grandi le monde. Leurs pensées se déduisent sans effort. Le désir, dont les satisfactions flétrissent tant de choses, le désir, cette faute de l'amour terrestre, ne les atteint pas encore. Comme deux zéphyrs assis sur la même branche de saule, ils en sont au bonheur de compléter leur image dans le miroir d'une eau limpide. L'immensité leur suffit. Ils admirent l'océan sans songer à y glisser sur la barque aux blanches voiles, au cordage fleuri que conduit l'espérance. Il est dans l'amour un moment où il se suffit à lui-même, où il est heureux d'être. Pendant ce printemps où tout est en bourgeon, l'amant se cache parfois de la femme aimée pour en mieux jouir, pour la mieux voir. Mais Étienne et Gabrielle se plongèrent ensemble dans les délices de cette heure enfantine. Tantôt c'étaient deux sœurs pour la grâce des confidences, tantôt deux frères pour la hardiesse des recherches. Ordinairement, l'amour veut un esclave et un dieu, mais ils réalisèrent le délicieux rêve de Platon. Il n'y avait qu'un seul être divinisé. Ils se protégeaient tour à tour. Les caresses vinrent, lentement, une à une, mais chaste comme les jeux si mutins, si gais, si coquets des jeunes animaux qui essaient la vie. Le sentiment qui les portait à transporter leur âme dans un champ passionné les conduisit à l'amour par les mille transformations d'un même bonheur. Leur joie ne leur causait ni délire ni insomnie. Ce fut l'enfance du plaisir grandissant, sans connaître les belles fleurs rouges qui couronneront sa tige. Ils se livraient l'un à l'autre sans supposer de danger. Ils s'abandonnaient dans un mot comme dans un regard, dans un baiser comme dans la longue pression de leurs mains entrelacées. Ils se vantaient leur beauté l'un à l'autre ingénument et dépensaient dans ces secrètes idylles des trésors de langage en devinant les plus douces exagérations, les plus violents diminutifs trouvés par la muse antique des Tibulles et redits par la poésie italienne. C'était sur leurs lèvres et dans leur cœur le constant retour des franges liquides de la mer sur le sable fin de la grève, toutes pareilles, toutes dissemblables. Joyeuse, éternelle fidélité. S'il fallait compter les jours, ce temps prit 5 mois. S'il fallait compter les innombrables sensations, les pensées, les rêves, les regards, les fleurs écloses, les espérances réalisées, les joies sans fin, une chevelure dénouée et vétilleusement éparpillée, puis remise et ornée de fleurs, les discours interrompus, renoués, abandonnés, les rires folâtres, les pieds trempés dans la mer, les chasses enfantines faites à des coquillages cachés dans les rochers, les baisers, les surprises, les étreintes, mettez toute une vie. La mort se chargera de justifier le mot. Il est des existences toujours sombres, accomplies sous des cieux gris. Mais supposez un beau jour où le soleil enflamme un air bleu, tel fut le mai de leur tendresse, pendant lequel Étienne avait suspendu toutes ses douleurs passées au cœur de Gabriel, et la jeune fille avait rattaché ses joies à venir à celui de son seigneur. Étienne n'avait eu qu'une douleur dans sa vie, la mort de sa mère. Il ne devait y avoir qu'un seul amour, Gabriel. La grossière rivalité d'un ambitieux précipita le cours de cette vie de miel. Le duc d'Hérouville, vieux guerrier rompu aux ruses, politique rude mais habile, entendit en lui-même s'élever la voix de la défiance après avoir donné la parole que lui demandait son médecin. Le baron d'Artagnan, lieutenant de sa compagnie d'ordonnance, avait en politique toute sa confiance. Le baron était un homme comme les aimait le duc d'Hérouville, une espèce de boucher, taillé en force, grand, à visage mâle, acerbe et froid, le brave au service du trône. Rude dans ses manières, d'une volonté de bronze à l'exécution, et souple sous la main. Noble d'ailleurs, ambitieux avec la probité du soldat et la ruse du politique. Il avait la main que supposait sa figure, la main large et velue de condottière. Ses manières étaient brusques, sa parole était brève et concise. Or, le gouverneur avait chargé son lieutenant de surveiller la conduite que tiendrait le médecin auprès du nouvel héritier présomptif. Malgré le secret qui environnait Gabriel, il était difficile de tromper le lieutenant d'une compagnie d'ordonnance. Il entendit le chant de 2 voix. Il vit de la lumière le soir dans la maison au bord de la mer. Il devina que tous les soins d'Étienne, que les fleurs demandées et ses ordres multipliés concernaient une femme. Puis il surprit la nourrice de Gabriel par les chemins, allant chercher quelques ajustements à Fort-Calier, emportant du linge, en rapportant un métier ou des meubles de jeune fille. Le soudard voulut voir et vit la fille du rebouteur. Il en fut épris. Beauvouloir était riche. Le duc allait être furieux de l'audace du bonhomme. Le baron d'Artagnan basa sur ces événements l'édifice de sa fortune. Le duc, apprenant que son fils était amoureux, voudrait lui donner une femme de grande maison, héritière de quelques domaines. Et pour détacher Étienne de son amour, Il suffirait de rendre Gabrielle infidèle en la mariant à un noble dont les terres seraient engagées à quelques lombards. Le baron n'avait pas de terres. Ces données eussent été excellentes avec les caractères qui se produisent ordinairement dans le monde. Mais elles devaient échouer avec Étienne et Gabrielle. Le hasard avait cependant déjà bien servi le baron d'Artagnan. Pendant son séjour à Paris, le duc avait vengé la mort de Maximilien en tuant l'adversaire de son fils. Et il avait avisé pour Étienne une alliance inespérée avec l'héritière des domaines d'une branche de la maison de Grandlieu, une grande et belle personne dédaigneuse, mais qui fut flattée par l'espérance de porter un jour le titre de duchesse d'Hérouville. Le duc espéra faire épouser à son fils mademoiselle de Grandlieu. En apprenant qu'Étienne aimait la fille d'un misérable médecin, il voulut ce qu'il espérait. Pour lui, cet échange ne faisait pas question. Vous savez si cet homme de politique brutale comprenait brutalement l'amour. Il avait laissé mourir près de lui la mère d'Étienne, sans avoir compris un seul de ses soupirs. Jamais, peut-être, en sa vie, n'avait-il éprouvé de colère plus violente que celle dont il fut saisi quand la dernière dépêche du baron lui apprit avec quelle rapidité marchaient les desseins de Beauvouloir, auxquels le capitaine prêta la plus audacieuse ambition. Le duc commanda ses équipages et vint de Paris à Rouen en conduisant à son château la comtesse de Grandlieu, sa sœur la marquise de Noirmoutier et mademoiselle de Grandlieu, sous prétexte de leur montrer la province de Normandie. Quelques jours avant son arrivée, sans que l'on sût comment ce bruit se répandait dans le pays, il n'était question d'Hérouville à Rouen que de la passion du jeune duc de Nivron pour Gabrielle Beauvouloir, la fille du célèbre rebouteur. Les gens de Rouen en parlèrent au vieux duc précisément au milieu du festin qui lui fut offert, car les convives étaient enchantés de piquer le despote de la Normandie. Cette circonstance excita la colère du gouverneur au dernier point. Il fit écrire au baron de tenir fort secrète sa venue à Hérouville, en lui donnant des ordres pour parer à ce qu'il regardait comme un malheur. Dans ces circonstances, Étienne et Gabrielle avaient déroulé tout le fil de leur peloton dans l'immense labyrinthe de l'amour, et tous deux, peu inquiets d'en sortir, voulaient y vivre. Un jour, ils étaient restés auprès de la fenêtre où s'accomplirent tant de choses. Les heures, d'abord remplies par de douces causeries, avaient abouti à quelques silences méditatifs. Ils commençaient à sentir en eux-mêmes les vouloirs indécis d'une possession complète. Ils en étaient à se confier l'un à l'autre leurs idées confuses, reflets d'une belle image dans deux âmes pures. Durant ces heures encore sereines, parfois les yeux d'Étienne s'emplissaient de larmes pendant qu'il tenait la main de Gabrielle collée à ses lèvres. Comme sa mère, mais en cet instant plus heureux en son amour qu'elle ne l'avait été, l'enfant maudit contemplait la mer, alors couleur d'or sur la grève, noire à l'horizon, et coupée çà et là de ces lames d'argent qui annoncent une tempête. Gabrielle, se conformant à l'attitude de son ami, regardait ce spectacle et se taisait. Un seul regard, un de ceux par lequel les âmes s'appuient l'une sur l'autre, leur suffisait pour se communiquer leurs pensées. Le dernier abandon n'était pas pour Gabrielle un sacrifice, ni pour Étienne une exigence. Chacun d'eux aimait de cet amour si divinement semblable à lui-même dans tous les instants de son éternité qu'il ignore le dévouement, qu'il ne craint ni les déceptions ni les retards. Seulement, Étienne et Gabrielle étaient dans une ignorance absolue des contentements dont le désir aiguillonnait leur âme. Quand les faibles teintes du crépuscule eurent fait un voile à la mer, que le silence ne fut plus interrompu que par la respiration du flux et du reflux dans la grève, Étienne se leva. Gabrielle imita ce mouvement par une crainte vague, car il avait quitté sa main. Étienne prit Gabriel dans un de ses bras, en la serrant contre lui par un mouvement de tendre cohésion. Aussi, comprenant son désir, lui fit-elle sentir le poids de son corps, assez pour lui donner la certitude qu'elle était à lui, pas assez pour le fatiguer. L'amant posa sa tête trop lourde sur l'épaule de son ami. Sa bouche s'appuya sur le sein tumultueux. Ses cheveux abondèrent sur le dos blanc et caressèrent le cou de Gabriel. La jeune fille, ingénument amoureuse, pencha la tête afin de donner plus de place à Étienne, en passant son bras autour de son cou pour se faire un point d'appui. Ils demeurèrent ainsi, sans se dire une parole, jusqu'à ce que la nuit fût venue. Les grillons chantèrent alors dans leur trou, et les deux amants écoutèrent cette musique, comme pour occuper tout leur sens dans un seul. Certes, ils ne pouvaient alors être comparés qu'à un ange, qui, les pieds posés sur le monde, attend l'heure de revoler vers le ciel. Ils avaient accompli ce beau rêve du génie mystique de Platon et de tous ceux qui cherchent un sens à l'humanité. Ils ne faisaient qu'une seule âme. Ils étaient bien cette perle mystérieuse, destinée à orner le front de quelque astre inconnu, notre espoir à tous. « Tu me reconduiras, » dit Gabriel en sortant la première de ce calme délicieux. « Pourquoi nous quitter ?» répondit Étienne. « Nous devrions être toujours ensemble, » dit-elle. « Reste. » « Oui. » Le pas lourd du vieux beau vouloir se fit entendre dans la salle voisine. Le médecin trouva les deux enfants séparés, et il les avait vus entrelacés à la fenêtre. L'amour le plus pur aime encore le mystère. « Ce n'est pas bien, mon enfant, » dit-il à Gabriel, « demeurer si tard ici, sans lumière. »« Pourquoi ? » dit-elle. « Vous savez bien que nous nous aimons et qu'il est le maître au château. » « Mes enfants, » reprit Beauvouloir, « si vous vous aimez, votre bonheur exige que vous vous épousiez pour passer votre vie ensemble. Mais votre mariage est soumis à la volonté de Monseigneur le Duc. »« Mon père m'a promis de satisfaire tous mes vœux !» s'écria vivement Étienne en interrompant Beauvouloir. « Écrivez-lui donc, Monseigneur, » répondit le médecin. « Exprimez-lui votre désir. » Et donnez-moi votre lettre pour que je la joigne à celle que je viens d'écrire. Bertrand partira sur le champ pour remettre ses dépêches à Monseigneur lui-même. Je viens d'apprendre qu'il est à Rouen. Il amène l'héritière de la maison de Grandlieu. Et je ne pense pas que ce soit pour lui. Si j'écoutais mes pressentiments, j'emmènerai Gabriel cette nuit même.
Nous séparer ?
S'écria Étienne, qui défaillit de douleur en s'appuyant sur son ami.
« Mon père !»«
Gabriel, » dit le médecin en lui tendant un flacon qu'il alla prendre sur une table et qu'elle fit respirer à Étienne. « Gabriel, ma science m'a dit que la nature vous avait destiné l'un à l'autre. Mais je voulais préparer Monseigneur le Duc à un mariage qui froisse toutes ses idées. Et le démon l'a prévenu contre nous. » « Il est monsieur le duc de Nivron, » dit le père à Gabriel. « Et toi, tu es la fille d'un pauvre médecin. »«
Mon père a juré de me contrarier en rien, » dit Étienne avec calme.
« Il m'a bien juré aussi à moi de consentir à ce que je ferais en vous cherchant une femme, » répondit le médecin. « Mais s'il ne tient pas ses promesses... » Étienne s'assit comme foudroyé. « La mer était sombre ce soir, » dit-il après un moment de silence. « Si vous saviez monter à cheval, monseigneur, » dit le médecin, « je vous dirais de vous enfuir avec Gabriel ce soir même. Je vous connais l'un et l'autre, et sais que toute autre union vous sera funeste. Le duc me ferait certes jeter dans un cachot et m'y laisserait pour le reste de mes jours en apprenant cette fuite. » Mais je mourrais joyeusement si ma mort assurait votre bonheur. Hélas, monter à cheval, ce serait risquer votre vie et celle de Gabriel. Il faut affronter ici la colère du gouverneur. Ici, répéta le pauvre Étienne. Nous avons été trahis par quelqu'un du château qui a courroucé votre père, reprit Beauvouloir. Allons-nous jeter ensemble à la mer, dit Étienne à Gabrielle en se penchant à l'oreille de la jeune fille qui s'était mise à genoux auprès de son amant. Elle inclina la tête en souriant. Beauvouloir devina tout. « Monseigneur, reprit-il, votre savoir autant que votre esprit vous a fait éloquent. L'amour doit vous rendre irrésistible. Déclarez votre amour à Monseigneur le Duc, vous confirmerez ma lettre qui est assez concluante. Tout n'est pas perdu, je le crois. J'aime autant ma fille que vous l'aimez et veux la défendre. » Étienne hocha la tête. « La mer était bien sombre ce soir, dit-il. Elle était comme une lame d'or à nos pieds, répondit Gabrielle d'une voix mélodieuse. Étienne fit venir de la lumière et se mit à sa table pour écrire à son père. D'un côté de sa chaise était Gabrielle, agenouillée, silencieuse, regardant l'écriture sans la lire. Elle lisait tout sur le front d'Étienne. De l'autre côté se tenait le vieux Beauvouloir, dont la figure joviale était profondément triste, triste comme cette chambre où mourut la mère d'Étienne. Une voix secrète criait au médecin « Il aura la destinée de sa mère !» La lettre finie, Étienne l'attendit au vieillard qui s'empressa d'aller la donner à Bertrand. Le cheval du vieil écuyer était tout sellé, l'homme prêt. Il partit et rencontra le duc à 4 lieues d'Hérouville. « Conduis-moi jusqu'à la porte de la tour, » dit Gabrielle à son ami quand ils furent seuls. Tous deux passèrent par la bibliothèque du cardinal et descendirent par la tour où se trouvait la porte dont la clé avait été donnée à Gabrielle par Étienne. Abasourdi par l'appréhension du malheur, le pauvre enfant laissa dans la tour le flambeau qui lui servait à éclairer sa bien-aimée et la reconduisit vers sa maison. À quelques pas du petit jardin qui faisait une cour de fleurs à cette humble habitation, les deux amants s'arrêtèrent. Enhardis par la crainte vague qui les agitait, ils se donnèrent, dans l'ombre et le silence, ce premier baiser où les sens et l'âme se réunissent pour causer un plaisir révélateur. Étienne comprit l'amour dans sa double expression, et Gabrielle se sauva de peur d'être entraînée par la volupté. Mais à quoi? Elle n'en savait rien. Au moment où le duc de Nivron montait les degrés de l'escalier, après avoir fermé la porte de la tour, un cri de terreur poussé par Gabrielle retentit à son oreille avec la vivacité d'un éclair qui brûle les yeux. Étienne traversa les appartements du château, descendit par le grand escalier, gagna la grève et courut vers la maison de Gabrielle où il vit de la lumière. En arrivant dans le petit jardin et à la lueur du flambeau qui éclairait le rouet de sa nourrice, Gabrielle avait aperçu sur la chaise un homme à la place de cette bonne femme. Au bruit des pas, cet homme s'était avancé vers elle et l'avait effrayée. L'aspect du baron d'Artagnan justifiait bien la peur qu'il inspirait à Gabrielle. « Vous êtes la fille à Beauvouloir, le médecin de Monseigneur, » lui dit le lieutenant de la compagnie d'ordonnance quand Gabrielle fut remise de sa frayeur. « Oui, seigneur. » « J'ai des choses de la plus haute importance à vous confier. Je suis le baron d'Artagnan, le lieutenant de la compagnie d'ordonnance que Monseigneur le duc d'Hérouville commande. » Dans les circonstances où se trouvaient les deux amants, Gabrielle fut frappée de ses paroles et du ton de franchise avec lequel le soldat les prononça. « Votre nourrice est là, elle peut nous entendre. Venez, » dit le baron. Il sortit. Gabrielle le suivit. Tous deux allèrent sur la grève qui était derrière la maison. « Ne craignez rien, » lui dit le baron. Ce mot aurait épouvanté une personne qui n'eût pas été ignorante, mais une jeune fille simple et qui aime ne se croit jamais sans péril. « Cher enfant, » lui dit le baron, en s'efforçant de donner un ton mielleux à sa voix, « Vous et votre père, vous êtes au bord d'un abîme où vous allez tomber demain. Je ne saurais voir ceci sans vous avertir. Monseigneur est furieux contre votre père et contre vous. Il vous soupçonne d'avoir séduit son fils, et il aime mieux le voir mort que le voir votre mari. Voilà pour son fils. Quant à votre père, voici la résolution qu'a prise Monseigneur. Il y a 9 ans, votre père fut impliqué dans une affaire criminelle. Il s'agissait du détournement d'un enfant noble au moment de l'accouchement de la mère, et auquel il s'est employé. Monseigneur, sachant l'innocence de votre père, le garantit alors des poursuites du Parlement. Mais il va le faire saisir et le livrer à la justice en demandant qu'on procède contre lui. Votre père sera rompu vif. Mais en faveur des services qu'il a rendus à son maître, peut-être obtiendra-t-il de n'être que pendu. J'ignore ce que Monseigneur a décidé de vous, mais je sais que vous pouvez sauver Monseigneur de Nivron de la colère de son père. Sauvez beau vouloir du supplice horrible qui l'attend, et vous sauvez vous-même. « Que faut-il faire ? » dit Gabriel. « Allez vous jeter aux pieds de Monseigneur. Lui avouer que son fils vous aime malgré vous, et lui dire que vous ne l'aimez pas. En preuve de ceci, vous lui offrirez d'épouser l'homme qu'il lui plaira de vous désigner pour mari. Il est généreux, il vous établira richement. Je puis tout faire, excepté de renier mon amour. Mais s'il le faut pour sauver votre père, vous et Monseigneur de Nivron. Étienne, dit-elle, en mourra, et moi aussi. Monseigneur de Nivron sera triste de vous perdre, mais il vivra pour l'honneur de sa maison. Vous vous résignerez à n'être que la femme d'un baron au lieu d'être duchesse. « Et votre père vivra !» répondit l'homme positif. En ce moment, Étienne arrivait à la maison. Il n'y vit pas Gabriel et jeta un cri perçant. « Le voici !» s'écria la jeune fille. « Laissez-moi l'aller rassurer !»« Je viendrai savoir votre réponse demain matin !» dit le baron. « Je consulterai mon père !» répondit-elle. « Vous ne le verrez plus !» Je viens de recevoir l'ordre de l'arrêter et de l'envoyer à Rouen, sous escorte et enchaîné, dit-il en quittant Gabriel frappé de terreur. La jeune fille s'élança dans la maison et y trouva Étienne, épouvanté du silence par lequel la nourrice avait répondu à sa première question. Où est-elle ? Me voilà ! S'écria la jeune fille, dont la voix était glacée, dont les couleurs avaient disparu, dont la démarche était lourde. « D'où viens-tu » dit-il. « Tu as crié. »« Oui, je me suis heurté contre... »« Non, mon amour, » répondit Étienne en l'interrompant. « J'ai entendu les pas d'un homme. »« Étienne, nous avons sans doute offensé Dieu. Mettons-nous à genoux et prions. Je te dirai tout après. » Étienne et Gabriel s'agenouillèrent au prie-Dieu. La nourrice récita son rosaire. « Mon Dieu !» dit la jeune fille dans un élan qui lui fit franchir les espaces terrestres. « Si nous n'avons pas péché contre vos 5 commandements, si nous n'avons offensé ni l'Église ni le roi, nous qui ne formons qu'une seule et même personne, en qui l'amour reluit comme la clarté que vous avez mise dans une perle de la mer, faites-nous la grâce de ne nous séparer ni dans ce monde ni dans l'autre. »« Chère mère, » ajouta Étienne, « toi qui es dans les cieux, obtiens de la Vierge que si nous ne pouvons être heureux, Gabriel et moi, nous mourions au moins ensemble, sans souffrir. Appelle-nous, nous irons à toi. » Puis, ayant récité leur prière du soir, Gabriel raconta son entretien avec le baron d'Artagnan. « Gabriel, » dit le jeune homme en puisant du courage dans son désespoir d'amour, « je saurai résister à mon père. » Il la baisa au front et non plus sur les lèvres, puis il revint au château, résolu d'affronter l'homme terrible qui pesait tant sur sa vie. Il ne savait pas que la maison de Gabriel allait être gardée par des soldats aussitôt qu'il l'aurait quittée. Le lendemain, Étienne fut accablé de douleur quand, en allant voir Gabriel, il la trouva prisonnière. mais Gabriel envoya sa nourrice pour lui dire qu'elle mourrait plutôt que de le trahir, que d'ailleurs elle avait trouvé le moyen de tromper la vigilance des gardes, et qu'elle se réfugierait dans la bibliothèque du cardinal, où personne ne pourrait soupçonner qu'elle serait. Mais elle ignorait quand elle pourrait accomplir son dessein. Étienne se tint alors dans sa chambre, où les forces de son cœur s'usèrent dans une pénible attente. À 3 heures, les équipages du duc et sa suite entrèrent au château, où il devait venir souper avec sa compagnie. En effet, à la chute du jour, Madame la comtesse de Grandlieu, à qui sa fille donnait le bras, le duc et la marquise de Noirmoutier montaient le grand escalier dans un profond silence, car le front sévère de leur maître avait épouvanté tous les serviteurs. Quoique le baron d'Artagnan eût appris l'évasion de Gabrielle, il avait affirmé qu'elle était gardée, mais il tremblait d'avoir compromis la réussite de son plan particulier, au cas où le duc verrait son dessein contrarié par cette fuite. Ces deux terribles figures avaient une expression farouche, mal déguisée, par l'air agréable que leur imposait la galanterie. Le duc avait commandé à son fils de se trouver au salon. Quand la compagnie y entra, le baron d'Artagnan reconnut à la physionomie abattue d'Étienne que l'évasion de Gabrielle lui était encore inconnue. « Voici monsieur mon fils, » dit le vieux duc en prenant Étienne par la main et le présentant aux dames. Étienne les salua sans mot dire. La comtesse et mademoiselle de Grandlieu échangèrent un regard qui n'échappa point au vieillard. « Votre fille sera mal partagée, » dit-il à voix basse. « N'est-ce pas là votre pensée ?»«
Je pense tout le contraire, mon cher duc, »
répondit la mère en souriant. La marquise de Noirmoutier, qui accompagnait sa sœur, se prit à rire finement. Ce rire perça le cœur d'Étienne, que la vue de la grande demoiselle avait déjà terrifié.
« Eh bien, monsieur le duc, »
lui dit son père à voix basse et d'un air enjoué, « ne vous ai-je pas trouvé là un beau moule? Que dites-vous de ce brin de fille, mon chérubin ?» Le vieux duc ne mettait pas en doute l'obéissance de son fils. Étienne était pour lui l'enfant de sa mère, la même patte, docile, aux doigts. « Qu'il est un enfant et qu'il crève !» pensait le vieillard, peu manchot. « Mon père, » dit l'enfant d'une voix douce, « je ne vous comprends pas. »« Venez chez nous, j'ai 2 mots à vous dire, » fit le duc en passant dans la chambre d'honneur. Étienne suivit son père. Les 3 dames, émues par un mouvement de curiosité que partagea le baron d'Artagnan, se promenèrent dans cette grande salle de manière à se trouver groupées à la porte de la chambre d'honneur que le duc avait laissée entr'ouverte. « Cher Benjamin, » dit le vieillard en adoucissant d'abord sa voix, « je t'ai choisi pour femme cette grande et belle demoiselle. Elle est l'héritière des domaines d'une branche cadette de la maison de Grandlieu, bonne et vieille noblesse du duché de Bretagne. Ainsi, sois gentil compagnon, et rappelle-toi les plus jolies choses de tes livres pour leur dire des galanteries avant de leur en faire. Mon père, le premier devoir d'un gentilhomme n'est-il pas de tenir sa parole ?
Oui.
Eh bien, quand je vous ai pardonné la mort de ma mère, morte ici par le fait de son mariage avec vous, ne m'avez-vous pas promis de ne jamais contrarier mes désirs ? Moi-même, je t'obéirai comme au dieu de la famille, avez-vous dit. Je n'entreprends rien sur vous, je ne demande que d'avoir mon libre arbitre dans une affaire où il s'en va de ma vie et qui me regarde seule, mon mariage. J'entendais, dit le vieillard en sentant tout son sang lui monter au visage, que tu ne t'opposerais pas à la continuation de notre noble race. Vous ne m'avez point fait de condition, dit Étienne. Je ne sais ce que l'amour a de commun avec une race, mais ce que je sais bien, c'est que j'aime la fille de votre vieil ami Beauvouloir, la petite fille de votre amie la belle Romaine. « Mais elle est morte, » répondit le vieux colosse, d'un air à la fois sombre et railleur, qui annonçait l'intention où il était de la faire disparaître. Il y eut un moment de profond silence. Le vieillard aperçut les trois dames et le baron d'Artagnan. En cet instant suprême, Étienne, dont le sens de l'ouïe était si délicat, entendit dans la bibliothèque la pauvre Gabrielle, qui, voulant faire savoir à son amie qu'elle s'y était renfermée, chantait ces paroles. « Une hermine est moins fine, le lys a moins de fraîcheur. » L'enfant maudit, que l'horrible phrase de son père avait plongé dans les abîmes de la mort, revint à la surface de la vie sur les ailes de cette poésie. Quoique déjà ce mouvement de terreur, effacé si rapidement, lui eût brisé le cœur, il rassembla ses forces, releva la tête, regarda son père en face pour la première fois de sa vie, échangea mépris pour mépris, et dit avec l'accent de la haine « Un gentilhomme ne doit pas mentir !» D'un bond, il sauta vers la porte opposée à celle du salon et cria « Gabrielle !» Tout à coup, la suave créature apparut dans l'ombre, comme un lys dans les feuillages, et trembla devant ce groupe de femmes moqueuses, instruites des amours d'Étienne. Semblable à ces nuages que porte la foudre, le vieux duc, arrivé à un degré de rage qui ne se décrit point, se détachait sur le front brillant que produisaient les riches habillements de ces trois dames de cour. Entre la prolongation de sa race et une mésalliance, tout autre homme aurait hésité. Mais il se rencontra dans ce vieil homme indompté la férocité qui jusqu'alors avait décidé toutes les difficultés humaines. Il tirait à tout propos l'épée comme le seul remède qu'il connût au nœud gordien de la vie. Dans cette circonstance, où le bouleversement de ses idées était au comble, le naturel devait triompher. Deux fois pris en flagrant délit de mensonge par un être abhorré, par son enfant maudit mille fois, et plus que jamais maudit au moment où sa faiblesse méprisée, et pour lui la plus méprisable, triomphait d'une omnipotence infaillible jusqu'alors. Il n'y eut plus en lui ni père ni homme. Le tigre sortit de l'antre où il se cachait. Le vieillard, que la vengeance rendit jeune, jeta sur le plus ravissant couple d'anges qui eût consenti à mettre les pieds sur la terre un regard pesant de haine et qui assassinait déjà. « Eh bien, crevez tous, toi, sale avorton, la preuve de ma honte. Toi, dit-il à Gabrielle. « Misérable gourgandine à langue de vipère qui a empoisonné ma maison !» Ces paroles portèrent dans le cœur des deux enfants la terreur dont elles étaient chargées. Au moment où Étienne vit la large main de son père, armée de fer et levée sur Gabrielle, il mourut, et Gabrielle tomba morte en voulant le retenir. Le vieillard ferma la porte avec rage. Et dit à Mademoiselle de Grandlieu « Je vous épouserai, moi. » « Et vous êtes assez vert galant pour avoir une belle lignée, » dit la comtesse à l'oreille de ce vieillard qui avait servi sous 7 rois de France.